Jean Schnoz, Lavelle et Laurent Mignard dans le 13-14. Autrement dit, un écrivain, une chanteuse et un musicien. Une rencontre à point nommé puisque nous allons parler d'un livre qui raconte l'histoire d'un musicien. Et nous allons parler aussi de jazz et plus particulièrement de Duke Ellington avec vous Lavelle et avec vous Laurent Mignard. Je lui programme dans le cadre du festival L'Esprit Jazz qui lui court jusqu'au 17 mai. Lavelle, vous êtes une chanteuse de jazz de renommée mondiale. Laurent Mignard, vous êtes trompettiste, chef d'orchestre, compositeur et arrangeur, et vous allez donc donner demain soir à Saint-Sulpice ces musiques sacrées de Duke Ellington. Elles ont déjà été présentées à Paris en 69, et ça a été un immense succès. Et je crois qu'il n'existe aucune partition. Hein. Vous avez tout retranscrit.
C'est un peu compliqué, cette histoire de partition. J'ai mis énormément de temps à essayer de trouver des partitions. Je ne les ai pas trouvées. Et quand j'ai enfin réussi à mettre la main sur des partitions qui étaient légales et éditées, pour ne rien vous cacher, elle ne me convenait pas parce qu'elle ne ressemblait pas du tout à ce que j'entendais dans le disque. Donc il se trouve que j'avais déjà entamé le travail à 80% d'écriture, de transcription à partir des disques, et je l'ai complété ensuite.
Parlez-nous de cette œuvre, vous Laurent Mignard, ou vous Lavelle.
Ému comme je suis, que M. Mignard me rappelait, me demandait de chanter ses œuvres, que... Il faut que je vous le dise, aux États-Unis, c'est rare qu'on s'est reproduisé comme il faut depuis le maître avait nous quitté.
Freedom, extrait des concerts sacrés de Duke Ellington, le Duke, comme vous dites, Laurent Mignard. Mmh.
Mais c'est le surnom qu'il s'était donné quand il était tout petit déjà. Je crois qu'il descendait l'escalier, il avait l'âge de 12 ans déjà, et puis il se tenait très droit. Il venait d'un univers de un peu bourgeois, hein, de Washington, et il disait « Laissez passer le Duke, laissez passer le grand Duke, je suis le Duke ». Et très tôt, il s'était donné lui-même cette appellation. Mais il se trouve qu'elle n'était pas du tout usurpée.
Ouais.
Parce qu'on a affaire vraiment à quelqu'un de très important dans l'histoire de la musique.
Oui, c'est pas compliqué. Ouais.
Il s'agit de quelqu'un qui a touché au jazz, bien sûr, mais aussi au blues, au gospel, au spiritual, à la grande musique. Et tout ça... sans avoir fait d'études musicales, en ayant appris tout seul, en ayant expérimenté des choses avec son orchestre. Et on parlait du piano tout à l'heure avec Jean Echenoz. Le piano pour Duke, c'est l'orchestre, c'est pas le piano. À la rigueur, c'est peut-être la version inverse de celle de Count Basie. Chez Count Basie, on a un big band, et le big band est le piano. Par contre, chez Duke, le piano est l'orchestre. Et quand Duke joue du piano, il joue pas du piano, il joue de l'orchestre. Quand il monte ses doigts, on entend les saxophones, on entend le Johnny Hodges dans sa main droite, on entend Harry Carney au baryton dans sa main gauche. C'est très rare. Et en tant que pianiste, il est pas énormément considéré comme un grand pianiste, alors qu'il est un coloriste, au même titre que Claude Debussy, parce qu'il avait beaucoup étudié la musique française, bien entendu.
Isabelle Pasquier.
Alors, ce côté religieux, musique sacrée du Duke, c'est le troisième mouvement, c'est la dernière partie de sa vie. Mais il le vivait avec, on peut dire, beaucoup de légèreté dans cette profondeur. J'ai repéré une phrase qui est étonnante, et là on rejoint peut-être un petit peu l'esprit de Jean Echenoz. Il disait « J'aurais peur de me trouver dans une maison avec des gens qui ne croient pas en Dieu, parce que j'aurais peur que la maison ne s'écroule. » On a le sentiment, rien qu'avec une phrase comme ça, qu'il a bien les pieds là. Il était très sensible, évidemment, il était bien placé pour l'être, au problème de racisme, à ce qui se passe ici-bas. Et en même temps, sa musique nous envoie très très haut, là-haut. Qu'on soit croyant, qu'on ne le soit pas, il y a vraiment un souffle qui passe. Est-ce que c'est pas un peu gonflé de votre part, à tous les deux? Enfin, en tout cas, est-ce que vous n'avez pas été tétanisé par l'idée d'être les passeurs de ce souffle? Un souffle qu'on a entendu ici, à Saint-Sulpice, c'était en 69, avec le Duke en personne.
Vous avez raison, c'est totalement gonflé. Ça fait plusieurs mois que je me pose la question. J'avais fait un travail d'abord avec des élèves comme un travail pédagogique sur la musique d'Ellington. Et petit à petit, dans les églises en Seine-et-Marne où j'avais fait ce travail, le public était tellement réceptif que je m'étais dit, mais il faut qu'on fasse ça à plus grande échelle. La parole d'Ellington est d'actualité. C'est ça qui m'a guidé.
Exact.
Quand Duke parle de Dieu, il est profondément pieux, et depuis le début, de son papa et sa maman fréquentaient assidûment l'église, d'ailleurs pas la même, l'un et l'autre. Il se considérait comme un messager de Dieu, et s'adressait à ceux qui ont été plus ou moins élevés avec les conseils de l'église, pas aux non-croyants. C'est un messager qui, en plus, déteste entendre dire de la part de certaines personnes qu'ils sont des incroyants. Et voilà ce qu'il disait à propos des incroyants, il disait... Je pense qu'ils utilisent un discours à la mode, que ce sont des fiefs menteurs et qu'ils ont subi un lavage de cerveau de la part de quelqu'un d'inférieur, complexé, qui prend plaisir à les faire s'agenouiller devant l'autel de l'incroyance.
Très bien.